When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2010 et c'est l'épisode numéro 30. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, 30e épisode.
Déjà.
Ouais, ça passe vite, hein.
Incroyable.
Ouais, c'est dingue. C'était quand notre premier épisode? Tiens, je sais même pas.
Notre première fois.
La première fois. Le premier épisode, c'était il y a 30 épisodes. Effectivement. Je pensais pas que la logique était aussi implacable. Bonjour, bonjour Jeff, bonjour Yann, comment allez-vous aujourd'hui?
Super bien. Ça va très bien, toujours comme d'habitude. Hein.
Super. Jeff a un petit peu moins de temps parce que il est en time zone différente.
Oui, on vient de changer de time zone, donc on est la semaine dans l'année où on a 8 heures de différence entre la côte ouest et Paris. Et donc là où d'habitude je prévois 2 heures pour notre show, là j'ai 1 heure. Mais ouais. Je vous souhaite le bonjour, j'espère que tout le monde va bien.
J'espère que tu vas bien aussi. On va se lancer assez vite, sachant que tu risques de partir en cours de route si jamais on n'a pas fini, parce que j'espère toujours finir en moins d'une heure, mais... On sait bien que ça n'arrive jamais. Un petit bonjour à la chatroom aussi. Bonjour. Chatroom qui est bien peuplée comme d'habitude. Donc merci à vous d'être là. J'espère que vous allez apprécier cette émission. Si vous voulez avoir des informations, vous qui nous écoutez par le podcast, sur la manière dont vous pouvez nous rejoindre dans la chatroom, vous pouvez aller sur le site. Il y a un lien en haut qui s'appelle direct et agenda ou un truc du genre. Je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises. Et vous avez là-dedans l'agenda des diffusions des différentes informations. C'est calendrier et live. Voilà. Et vous avez l'agenda et le lien pour vous joindre à nous une semaine sur deux, le lundi à 10h, heure de Paris. Bon, écoutez. Avant de se lancer, un grand, grand merci à David qui nous a laissé un pourboire sur le site. Comme vous le savez, si vous appréciez l'émission et que vous voulez nous laisser un petit pourboire, vous pouvez le faire. Il y a un lien sur le site, sur la barre de droite. Et cette fois-ci, David a choisi de le faire, de nous donner un petit peu de son argent durement gagné. Et nous le remercions grandement. Bon, alors, donc... Les sujets d'aujourd'hui. Première chose, le net est-il un droit fondamental ? Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage qui a été fait il y a quelques... le résultat, en tout cas, a été rendu public il y a une ou deux semaines. Le docteur Hamadoun Touré, qui est le secrétaire général de l'International Telecommunications Union, qui a annoncé cette étude, qui dit que c'est combien 80% des gens interrogés, ils ont interrogé 27 000 adultes dans 26 pays, et une majorité des gens estiment que le net est un droit fondamental. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous deux ?
Bah, je trouve que c'est un petit peu fort quand même, dire que c'est un droit fondamental. Enfin, je veux dire, si t'as pas accès à Internet, tu vas pas en crever, quoi. Donc, certes, c'est, après, c'est, faut voir un petit peu ce qu'ils entendent par là. Le fait d'avoir le droit d'accéder à Internet, effectivement, je trouve que c'est un droit fondamental. Maintenant qu'on oblige les infrastructures à câbler tout le monde, même au fin fond de la forêt, pour qu'ils puissent avoir son accès à Internet, je sais pas si c'est si important que ça, quoi. Par contre, enfin, je sais pas, moi, j'aurais été plus sensible à un truc du genre avoir accès à un Internet non censuré. Ça, pour moi, c'est plus important, quoi. Mais
Je pense que ça inclut un petit peu ce type de réflexion, et c'est d'autant plus important, et ça résonne d'autant plus chez nous que si on considérait Internet comme un droit fondamental en France, la loi Hadopi, enfin on en a parlé souvent, mais la loi Hadopi ne pourrait pas couper votre accès à Internet. Donc c'est effectivement quelque chose. Je crois que t'as pas tort quand tu dis ça dépend de ce que veut dire, ce qu'on entend par un droit fondamental, mais l'une des choses à laquelle on le compare souvent, c'est de la même manière que l'électricité pourrait être considérée comme un droit fondamental. Et là où on peut se dire, ouais, bon, Internet, on va pas non plus en mourir, c'est pas dramatique si nous, on n'a pas accès à Internet, il faut voir les choses sur un plan mondial, et il y a des gens, enfin, Internet, c'est aussi un vecteur d'information qui est devenu absolument fondamental. Et dans certains pays, ça peut être considéré comme une question de liberté d'expression et liberté d'accès à l'information. Et en ce sens-là, peut-être que l'argument est plus compréhensible.
Ouais, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, en fait. C'est, je pense qu'effectivement, le point est un peu vague.
Vous vous liguez toujours contre moi, vous deux. Là.
C'est pas fini, c'est pas fini.
Laisse-moi parler d'abord. Non, c'est un moyen d'expression. Internet, c'est un moyen d'expression. Je veux m'exprimer. Donc, c'est effectivement un moyen d'expression. C'est un moyen où des gens qui sont plus ou moins oppressés par leur régime peuvent avoir une voix. Je pense à l'Iran, je pense à certains dissidents dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et donc, ce titre, c'est vrai que l'accès à Internet est un moyen de liberté fondamentale. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que ça force les gouvernements à mettre en place un programme d'accès à toute leur population ? Est-ce que c'est un programme d'accès broadband ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on considère qu'un accès via un modem, c'est un accès à Internet ? Je pense que c'est assez vague, en fait, la question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet fait une telle partie de nos existences qu'on ne peut pas imaginer une vie sans Internet.
Ah, c'est sûr que moi, en tout cas... Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui imaginent leur vie sans Internet, mais...
Mais ce qui est surprenant en plus dans cette étude, c'est que, enfin, surprenant oui et non, c'est que en fonction des pays, les avis divergent quand même de façon assez importante. J'avais noté notamment que en Chine, ben, la majorité des Chinois pensent que le gouvernement doit réguler l'accès à Internet. Et on est pas mal aussi en Europe à penser pareil, alors qu'en Finlande et en Estonie, ça fait partie de la loi, quoi. Donc, d'un pays à l'autre.
Oui, ce que tu dis, c'est qu'en Finlande et en Estonie, Internet est déjà un droit fondamental.
Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Donc, mais je suis surpris que en Chine, par exemple, que les Chinois pensent que ça doit être régulé par le gouvernement, quoi. Enfin, surpris.
Oui, c'est pas si surprenant, mais c'est aussi une question intéressante. Est-ce que le gouvernement doit réguler Internet ? Et là, évidemment, tous les geeks que nous sommes vont se précipiter vers la question de. Voilà, mais. Mais il y a aussi la question de choses. Alors, je sais que c'est l'argument qu'on sort un petit peu à tout bout de champ, comme le terrorisme pour la sécurité. On dit oui, mais les sites pédophiles. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, enfin, les sites pédophiles d'une part, les sites, je ne sais pas moi, de jeux en ligne, est-ce que ça doit être régulé ? Les sites, il y a plein de choses. Et. Oui, à mon sens, les sites pédophiles, c'est un petit peu une sorte d'épouvantail qu'on secoue quand on veut faire passer n'importe quoi. Ça ne veut pas dire non plus que la pédophilie ne doit pas être réglementée sur Internet. Tu vois, imaginons que la pédophilie soit autorisée sur Internet, enfin, par les gouvernements, on peut imaginer ce que ça pourrait donner. Donc, même si il ne faut pas créer des lois trop restrictives au nom de la pédophilie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout la réguler non plus. Donc, la question de l'intervention des gouvernements sur le net est aussi intéressante. Et moi, je me suis surpris en y réfléchissant à me dire, il y a peut-être effectivement une certaine, un certain contrôle qui doit être exercé par les gouvernements, même si ma réaction viscérale, c'est non, 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 sûrement pas, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux, comme diraient certains.
Ok. Bon, écoute, on est d'accord, on est quand même plus ou moins d'accord.
Ouais, c'était mal parti, mais finalement, je pense qu'on est d'accord.
Bon, si vous voulez un lien vers l'étude complète, on mettra un lien dans les liens de l'émission. Vous pourrez récupérer le PDF entier qui détaille tous ces chiffres sur lesquels on est passé un peu rapidement et pas de manière très précise. Vous pourrez voir de quoi il en retourne. Autre sujet intéressant, surtout pour ce groupe-ci qui en a parlé précédemment, La question de On Live, qui est, dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises.
J'adore ce sujet.
Jeff, je ne sais pas si c'est ton micro, si tu touches ton micro ou pas, il fait des bruits un peu bizarres, je crois.
Mon micro, mais je vais le muter.
Ah, d'accord. Donc, la question de On Live, qui était ce service de jeu en ligne qui vous proposait de vous envoyer la vidéo du jeu auquel vous jouiez, de manière à ce que votre ordinateur n'ait pas à faire tourner le jeu directement. Donc simplement, vous pouvez avoir une vidéo de la même manière que vous avez une vidéo sur YouTube ou sur n'importe quel autre service de vidéo en streaming, sauf que là, c'est censé être instantané, et vous envoyez les commandes du jeu à leur serveur, et le serveur vous renvoie la vidéo quasiment instantanée. Évidemment, quand ils ont annoncé leur service il y a un an environ, un petit peu moins, tout le monde a été... Enfin, c'était il y a un an ou... Oui, c'était il y a un an. Le monde a été très sceptique et le premier des sceptiques, c'était Yann. Ils ont commencé leur bêta test il y a quelques mois et là, ils annoncent que conformément à leur agenda, ils seraient...
Non, pas conformément à leur agenda. Le truc, il devait être lancé depuis novembre 2009. Il y a eu des ratés.
Et c'était pas la bêta. C'était pas la bêta qui était censée être...
La bêta ouverte devait commencer fin 2009. Et finalement, d'accord, il n'y a jamais eu de bêta ouverte. Et par contre, effectivement, comme tu le disais, si justement, on a un petit peu plus de nouvelles maintenant. C'est à l'occasion du GDC, d'ailleurs, qui s'est tenu la semaine dernière, que On Live, que la société a parlé publiquement du sujet et vient de déclarer finalement que le service sera disponible dès le 17 juin aux États-Unis pour le moment. Donc, on a eu plein d'informations, notamment le prix. Donc, ça va tourner autour de... Enfin, ça sera 15 $ par mois, rien que pour l'accès au service. Mm-hmm. Et ça ne vous dispensera pas d'acheter également les jeux ou de les louer, même quand vous allez payer ce service. Ce qui fait qu'au final, ça risque de coûter assez cher. Je trouve quand même que c'est assez cher. Quand on voit qu'une 360, maintenant, on la trouve aux alentours de 129 $, 15 $ par mois plus. Alors, je sais pas, ils ont pas précisé sur combien ils vont vous facturer l'achat d'un jeu. J'ose espérer que ce ne sera pas le prix qu'on trouvera dans ce magasin. Donc, payer 60 $ pour un Mass Effect plus 15 $ par mois pour y accéder et jouer. J'espère que ce sera pas ça. Mais en tout cas, ça fait des... Oui?
Non, je dis effectivement, ça c'est une nouvelle qui est quand même la mauvaise surprise de l'annonce, parce que à l'origine, l'idée du service, c'était on paye un abonnement mensuel et on n'a rien d'autre à payer, on peut jouer à tous les jeux. Alors, c'est peut-être pas ce qu'ils avaient dit exactement dans ces termes-là, mais c'est ce que tout le monde avait compris en tout cas.
Oui, et là, tout le monde avait compris. C'est-à-dire qu'on s'était dit, bon ok, je vais arrêter d'acheter des jeux, je vais avoir un système de location, pourquoi pas, on va voir si ça peut être... On peut le rentabiliser, c'est peut-être un peu cher, mais au minimum, tu peux passer d'un jeu à un autre. Si c'est juste une question d'accès, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Je vois pas quelle est la cible de ce service en fait.
Ça va peut-être dépendre des prix des jeux. Disons que si on peut louer un jeu pour un prix très attractif, peut-être que... Et encore, ça complique les choses, c'est pas... Je suis pas convaincu. Moi, l'idée, effectivement, de la licence globale vidéoludique, c'était tout de suite très attractif pour plein de gens. Là... Tout à coup, ça devient... Bon, il faudra attendre d'avoir plus de détails pour juger, quoi.
Mais déjà, les premiers détails font peur. Et puis ça, c'est bien évidemment en supposant que ça marche bien. Et pour ça, rien n'est moins sûr. On va pas réouvrir le débat, mais quand même, voilà, quoi.
Les tests font état d'un truc qui fonctionne correctement. Peut-être pas aussi bien. Non, les tests qu'on a, les infos qu'on a eues sur les tests.
Les infos qu'on live a publiées, ouais, c'est. Effectivement, c'est vachement perspicace. Mais mais on va pas jeter la pierre tout de suite. On va se contenter de rigoler, d'accord, pour le moment. Mais en tout cas, ils disent qu'il y aura entre 12 et 25 titres qui seront disponibles au lancement. Borderlands, Mass Effect 2, en fait, tous les blockbusters qu'on trouve actuellement. Donc voilà quoi, le 17 juin, vous allez pouvoir, si vous habitez aux États-Unis, tester le service. Et puis une chose est sûre, c'est que même si OnLive sera disponible le 17 juin, il ne sera sûrement pas compatible avec le PlayStation Move de Sony.
le périphérique Quelle transition magnifique.
Non mais en plus c'est vrai puisque alors pour ceux qui ne le savent pas donc à l'occasion de la GDC donc la même conférence pendant
pour
laquelle
info,
on l'a pu
pour
communiquer.
Info la GDC c'est la Games Developer Conference qui est une conférence qui se tient à San Francisco ou qui est principalement orientée vers les développeurs donc les professionnels de l'industrie mais
Absolument.
Dans laquelle les sociétés font aussi des annonces pour le grand public.
Effectivement. Donc, il y a eu pas mal d'annonces et Sony a plutôt créé la surprise puisque ces derniers mois, on parlait plutôt du projet natal de Microsoft. Vous savez, ce périphérique qui permettait de capter les mouvements du joueur sans qu'il n'ait à tenir quoi que ce soit dans ses mains. Donc, Sony a voulu frapper fort à l'occasion de ce GDC où personne ne l'attendait en donnant davantage d'informations sur ce qu'on appelait jusqu'à maintenant le motion controller de Sony qui a maintenant un nom. Donc, il s'agit du PlayStation Move. On sait qu'il y aura un starter kit qui sera en dessous de $100. Dans le starter kit, on va retrouver le PlayStation Eye, donc la petite webcam qu'on peut acheter dès maintenant dans n'importe quel magasin avec un contrôleur et un jeu. Donc ces trois éléments, donc le PlayStation Eye, le fameux PlayStation Move et un jeu, on trouvera ça en dessous des $100 a priori. Hors taxe. J'ai commencé à m'habituer au truc.
Ah,
finalement, c'est pas si cher. Voilà, mais on rajoute les taxes derrière et puis $100, donc 100 euros, bien évidemment.
On sait pas. Ça n'a pas été annoncé.
Oh, mais c'est vrai, ça sera peut-être 120 euros. D'autres, il y aura d'autres bundles, bien évidemment. Ils misent beaucoup, ils ont beaucoup communiqué sur l'aspect précision, sur la faible latence, bien évidemment pour donner des petits coups à Nintendo avec sa Wiimote. Les journalistes ont pu tester la chose et finalement, jusqu'à maintenant, enfin, ça sent un peu le pétard mouillé, hein. À l'E3 2009, je sais pas si Patrick tu t'avais vu et puis je suppose aussi que Jeff t'avais peut-être regardé la présentation de Sony
Bien
à l'E3
sûr.
2009, mais on avait l'impression que c'était quelque chose de vraiment très très précis, très très rapide, qui était à des années-lumière plus performant que la Wiimote de Nintendo. Et puis finalement, les journalistes ont pour la première fois pu tester des vrais jeux avec donc ce PlayStation Move et ils sont un petit peu refroidis. On parle de latence, on parle du périphérique qui a du mal à capter nos mouvements. Donc pour le moment le hype est redescendu là où Sony a voulu frapper fort. Finalement, peut-être qu'ils l'ont présenté un petit peu trop tôt. Ils ont dit ouais mais les jeux sont en bêta donc il y a encore un peu de lag, mais l'expérience se rapproche finalement un petit peu de ce qu'on avait déjà avec la Wii Nintendo. Donc il y a beaucoup d'espoir qui repose maintenant sur le projet natal de Microsoft.
Bah, c'est quand même, je te trouve quand même un petit peu sévère avec ce PlayStation Move. Effectivement, c'est une sorte de copie améliorée en théorie de la Wiimote de Nintendo, comme tu le dis très bien. Même si, alors la grande force c'était effectivement une réaction immédiate, une réaction one-to-one des mouvements qui sont retranscrits sur l'écran, des mouvements qu'on fait avec la télécommande qui sont retranscrits sur l'écran, mais même s'il y a une toute petite latence, la réaction est quand même beaucoup plus rapide que pour la Nintendo Wii.
T'as vu les vidéos ? C'est hallucinant, le gars il lançait trois patates et son personnage il se baissait et courait. Enfin, il galérait vraiment énormément pour pouvoir lancer ses mouvements et que ce soit reconnu, quoi. Donc, c'est quand même assez décevant.
Donc, t'es pas
quoi.
Convaincu, toi.
Ah non.
Jeff,
non,
t'as non. vu les vidéos, toi ?
Ouais, j'ai vu. Je pense que le problème, c'est que quand tu connais la technologie qui est impliquée dans le développement de ce genre de périphérique, je pense que arriver à un niveau de qualité à un prix en dessous de $100, c'est vraiment pas facile. Et moi, j'avais vu des technologies qui étaient basées sur des caméras super fines. Donc, en fait, c'était le système qui allait filmer la personne qui allait avec un système de reconnaissance de motion, comment on dit motion en français, de mouvement. Merci. je sais, c'est grave. Désolé. De mouvement en temps réel. Et en fait, la caméra et le système derrière coûtaient très cher, quoi. Donc là, en fait, ils ont essayé de mettre en place un système avec un espèce de, pas de, je veux pas dire de hack, mais un truc qui évite d'utiliser des périphériques trop chers. Et je pense que c'est là où en fait on va payer le prix en termes de précision, quoi.
C'est possible. Moi, à vrai dire, j'y crois encore un petit peu, mais vous l'aurez compris, je suis une sorte d'éternel optimiste. Hein,
ah
des
oui.
trois, je suis le.
Ah oh oui.
Patrick est un bon Saint-Maritain de la tech. C'est
ouais,
le bon
c'est ça. Ouais.
De la tech.
Moi, je vois, on présente un truc, je fais oh mais ça a l'air
oh
très
mon
très
Dieu.
Bien. Mais le truc en fait auquel je pense quand je vois ça, c'est que je me dis les développeurs qui développent pour ce projet ont un marché déjà installé de joueurs qui sont des core gamers, donc des joueurs un petit peu plus joueurs que le marché de la Nintendo Wii. Donc, quelle que soit la performance du périphérique, ils vont devoir développer des jeux avec ce périphérique pour, a priori, entre autres, hein, pour des joueurs qui sont des vrais joueurs. Donc, j'ai l'impression qu'on risque de voir que en fait, ce PlayStation Move, qui, entre parenthèses, on l'a peut-être pas dit, mais ressemble à un vibromasseur, ça fait peur. ce PlayStation
non,
Move...
C'est quoi un vibromasseur?
C'est un truc pour se masser le dos, tu sais, comme sur les catalogues de la Redoute. Pour les jeunes qui connaissent pas les catalogues de la Redoute, en fait, il y a de nombreuses années, je crois que ça existe encore, mais il y a de nombreuses années, il y avait des catalogues qui vous proposaient de faire votre shopping sur des gros bottins en papier, en fait, et vous pouviez les commander, vous appeliez au téléphone et vous envoyez ça par la poste. Donc, vous pouviez acheter des meubles, des vêtements, etc., etc., toutes sortes de choses. Et ils vendaient aussi des vibromasseurs, sauf qu'ils ne pouvaient pas dire que c'était des vibromasseurs. Donc, ils montraient
oh
des photos de jeunes femmes en chemise de nuit avec un vibromasseur qui se massait genre la joue ou le front, tu vois, ce genre de truc. Donc,
alors, Patrick, je ne sais pas comment tu es arrivé à ça, mais je ne veux pas le savoir.
Mais attends, tu n'as jamais feuilleté un catalogue de la Redoute, toi? Ou des 3-6?
Si, je veux parler.
D'accord, ok. Bon, enfin, en tout cas, c'est la minute éducation de l'ancien monde. Hein, voilà, vous savez,
la
vous savez comment ça se passe.
Rendez-vous tech.
Exactement. Mais donc, le PlayStation Move en question, je sais même plus ce que je disais. Du coup, j'ai oublié tout le monde.
Qui ressemble donc comme deux gouttes d'eau à un sextoy.
Voilà. Il a quand même une possibilité, à mon sens, un potentiel important parce que il pourrait réaliser les promesses de la Nintendo de la Wiimote. C'est-à-dire que la Wiimote, quand elle est sortie, on s'est dit « Ah, ça va avoir plein de jeux super gamers, des trucs super marrants. » Et on s'est retrouvé avec 30 000 Cooking Mama et 62 000 Léa et son... tu sais, Léa aime la mode, Léa fashion designer, Léa architecte et d'intérieur, etc. etc. Donc... Là, ils ont un marché qui est déjà un marché de gamers et plus ou moins le même accessoire. Donc peut-être qu'il va y avoir une explosion d'inventivité et de créativité qui va faire que ça va nous créer des vrais jeux de gamers plutôt que des petits trucs très casual, quoi. Bon, maintenant. Je me trompe peut-être.
On verra bien.
Je sais pas si ça va être le cas, mais je dis qu'il y a cette possibilité qu'il faudrait surveiller, tu vois.
Bah, je sais pas. Enfin, peut-être que moi, je suis surpris que pour le moment, Nintendo n'ait toujours pas lancé des poursuites envers Sony pour le plagiat, quoi, puisque ça ressemble vraiment à une violation de brevet, un peu comme celle qu'il y a lieu entre Apple et HTC en ce moment.
Qu'il est fort, Yann. Une autre transition merveilleuse, vas-y.
Alors je suppose que vous en avez entendu parler, cette histoire entre Apple et HTC. Donc globalement, c'est très simple, hein. Apple vient de publier donc un communiqué de presse où il déclarait poursuivre HTC en justice pour violation de brevet. Et quand on regarde de plus près de quoi il s'agit, il s'agit essentiellement de toutes ces interactions utilisateurs qu'il y a avec l'iPhone. Donc par exemple, le fait de glisser le doigt pour pouvoir déverrouiller son iPhone, ça a été breveté par Apple et ils sont en train de poursuivre HTC par rapport au fait qu'ils utilisent un petit peu cette même méthode. Le fait aussi de maintenir son doigt sur une application pour qu'elle se mette à trembler et que vous puissiez la déplacer ou la supprimer, ça aussi c'est quelque chose qui a été protégé par Apple dans un de leurs brevets et poursuivre HTC pour ça. Mais en fait, personne n'est dupe et on se rend compte que la véritable cible d'Apple dans tout ça, c'est Google avec son Android, puisque HTC fabrique la quasi-totalité des téléphones qui tourne sur le système d'exploitation de Google. Donc, encore une fois, c'est une guerre qui s'annonce entre les deux grands géants. Et c'est un petit peu dommage, quoi, puisque quand on voit la chose dans la globalité, on a vraiment l'impression que cette philosophie d'Apple de vouloir défendre ses brevets, quelque part, ça ralentit, voire ça empêche le progrès, le développement, finalement. L'innovation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, je sais pas, Jeff, t'en as entendu parler de cette histoire, je suppose que tu as un avis un peu précis sur la chose.
De toute façon, faut savoir une chose, c'est que les patentes et le fait d'attaquer des boîtes pour...
Les brevets, on va se faire taper dessus, Jeff, les brevets.
les patentes. Donc, les brevets, les patentes, quel que soit le nom, c'est un outil aux États-Unis de gestion de la compétition, et donc quand tu ne veux pas que ton compétiteur vienne trop près de toi au niveau des fonctionnalités, au niveau de des petits trucs comme ça où tu tiens l'application et puis tu peux ensuite la virer, tu les envoies devant le juge. Ils vont dépenser de l'argent, ils vont dépenser du temps, et en gros c'est un moyen de freiner l'innovation, mais également freiner la copie. Donc je pense qu'on pourrait passer une heure entière à débattre du système de patente américain, qui est un peu débile. Mais en tout cas,
beaucoup de gens disent effectivement, la réaction de beaucoup de gens, c'était le système de brevet est tellement large et tellement vaste. On connaît l'histoire du brevet pour l'achat en un clic qui a été décerné à Amazon. C'est tellement large qu'il a un effet inverse là où il était censé favoriser l'innovation. Aujourd'hui, il entrave l'innovation plus qu'autre chose. Mais effectivement, on pourrait en débattre pendant 2 heures. C'est pas le sujet ici.
Et de toute façon, aux États-Unis, une boîte comme HTC devra avoir un portefeuille de patentes. Et la réaction habituelle quand tu te fais attaquer pour un breach de patente comme ça, c'est de contre-attaquer pour un breach équivalent, de manière à ce que, in fine, les deux boîtes se retrouvent à avoir un compromis où il y a un cross-licensing des patentes, et puis voilà, quoi. Et
je pense
juste une mention, de dire que Apple a enlevé les gants, comme on dit aux États-Unis, il y a un bout de temps, vis-à-vis de Google, vis-à-vis d'HTC. Et donc là, ils viennent de recruter un des product managers ou program managers seniors de Google, de manière à passer chez Apple. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et en fait, il y avait une espèce d'agrément entre les deux boîtes pour ne
D'accord,
pas aller chercher.
Veux dire.
D'accord. Entre les deux boîtes pour ne pas aller chercher des gens mutuellement, et clairement Apple a fait fi de cet agrément, et ils sont partis, enfin de cet accord, et ils sont partis pour aller chercher, quoi.
C'est exactement ce que j'allais dire. Molly Wood, en fait, dont on vous parle régulièrement dans cette émission, qui est une journaliste chez CNET aux États-Unis, a dit dans son émission Buzz Report, c'est la guerre thermonucléaire qui a été lancée par Apple là, parce que c'est pas tellement cette action en particulier qui est incroyablement agressive, même si elle l'est, mais c'est surtout que c'est le début des hostilités, et chacun va commencer à être... Parce qu'effectivement, c'est Google qui est attaqué dans l'histoire, et on se souvient qu'au début de l'iPhone, Google et Apple étaient main dans la main, et 3 ans plus tard, les choses se sont largement dégradées, et c'est sans doute le début de quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps et qui va être beaucoup plus agressif. Et là où ça devient... carrément comique, je dirais, c'est que, et je pense que Mathieu Blanco, quand il nous entendra, va s'étouffer en mangeant son riolet. Je sais pas pourquoi j'ai décidé qu'il mangeait du riolet, mais le plus comique dans l'histoire, c'est que Steve Jobs a donné une interview très très célèbre où il annonce très ouvertement et très fièrement que Apple a toujours été assez ouvert sur le fait qu'ils volent leurs idées parmi les meilleures idées de leurs concurrents. Et il dit les grands artistes, les bons artistes créent, les grands artistes volent. C'est une citation de Dali, voilà, si je ne m'abuse. Donc, c'est quelque chose d'assez ironique, finalement, de voir que là où, il y a quelques années, quand ils étaient un petit peu l'outsider, ils étaient très honnêtes avec ce genre de choses, et aujourd'hui, où ils sont un petit peu dominants, et même très dominants sur ce marché des téléphones portables, tout à coup, ils se drapent dans leur légitimité d'inventeur en disant ce qu'ils ont annoncé clairement, nous sommes obligés de défendre nos brevets et de défendre nos inventions parce que sinon nos concurrents vont voler ce que nous avons créé. Donc bon, il y a une dichotomie que je vous laisserai juger là-dedans. Ils n'ont pas tort en dans le fond.
Ouais, mais je suis désolé, c'est pas le fanboy Apple qui est en moi.
Si,
on parle de l'iPad à un moment qui est en moi qui peut les défendre, mais simplement si tu reviens au début de la relation entre Apple et Google, et je rappelle le fait que Eric Schmidt a été sur le board d'Apple pendant longtemps, c'est Google qui a dégainé le premier en lançant Android et en annonçant le fait qu'ils allaient avoir des téléphones. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné la puissance de Google, je pense pas qu'Apple puisse rester non mais ils sont sympas, ils viendront pas manger sur notre marché, parce que ce serait du suicide.
C'est, donc, non, c'est sûr, ils n'ont pas le choix, mais il y a quand même quelque chose de délicieusement ironique quand on voit Apple se draper dans la légitimité de l'invention, alors qu'eux-mêmes, de la même manière que Microsoft et d'autres, hein, eux-mêmes n'ont pas inventé grand-chose jusqu'à l'iPhone.
Ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça quand même un petit peu. Enfin, je te trouve vachement gentil quand même, Jeff, parce que j'allais dire patenté. Mettre breveté. Un brevet sur breveté, voilà. Le glisser déposé sur. Enfin, le glisser déposé. Le glisser pour déverrouiller son téléphone. Enfin, je veux dire quelque part.
Yann.
Non. J'ai pas terminé. Je t'ai laissé. Je trouve ça quand même.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Non, ça veut dire que quelque part, Apple est en train de dire aux gens, ben voilà, si vous voulez glisser pour déverrouiller votre téléphone, ben achetez un iPhone. Et vous ne pouvez acheter rien d'autre. Tu te rends compte comment c'est énorme? C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils la breuvent, ils mettent un brevet dessus, et après personne ne peut acheter un autre téléphone qui utilise le même mécanisme. C'est hallucinant. Et quand tu vois un petit peu les brevets en question, c'est vraiment du common sense, quoi. C'est-à-dire que ok, ils ont eu l'idée en premier, mais ils bloquent vraiment l'utilisateur. On réduit le fer de lance de Apple, c'est améliorer et enrichir l'expérience utilisateur. En faisant ça, ils ne font que la dégrader en limitant l'utilisateur au niveau des périphériques,
en fait,
qui peuvent avoir accès à ce
genre
de choses.
Je vais dire un truc qui va un petit peu te répondre et répondre au problème qu'on posait tout à l'heure. C'est que normalement, il y a dans la définition d'un brevet, dans la loi américaine, il y a l'idée que ce brevet ne doit pas représenter une idée évidente. Une idée qui soit simplement... Je veux dire, si jamais on pense à quelque chose, c'est l'idée qui va venir à tout le monde. Et effectivement, il y a un certain nombre de brevets qu'ils ont appliqués à l'iPhone qui sont assez, qui sont pas vraiment forts, qui sont assez faibles, comme l'idée, par exemple, de zoomer en écartant les doigts ou en rapprochant les doigts, le pinch, Donc on ne sait pas si ça va tenir. Et là, effectivement, c'est un défaut dont on parlait tout à l'heure avec Jeff, qui est le problème du système de brevets aux États-Unis, qui autorise le fait de mettre un brevet sur des idées aussi simples que celle-ci et qui, a priori, ne devrait pas. C'est comme si on disait le double-cliquer est breveté pour ouvrir un fichier. Faut pas exagérer.
Mais c'est ce que je voulais dire, en fait, à Yann. C'est qu'il y a vraiment deux choses ici. La première, c'est est-ce que il était légitime pour le US Patent Office de donner à Apple la patente sur ce mécanisme. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est est-ce que c'est le droit d'Apple d'utiliser la loi à son avantage. Et je pense que pour moi, le fait que ce soit le droit d'Apple d'aller chercher donc leurs concurrents pour des brevets qui leur ont été attribués, je pense que c'est complètement leur droit.
C'est pas faux.
La grosse question, c'est est-ce que le USPTO aurait dû donner à Apple cette patente ou pas ? Et comme on le disait tout à l'heure,
ça a commencé là, en fait.
Voilà, ouais. C'est ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce sont des marchés qui sont d'une telle ampleur qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les différents acteurs se fassent des guillés, hein, c'est tout. Hein.
Ton son se dégrade de minute en minute, Jeff. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... essaye de débrancher, rebrancher peut-être le fameux truc sur Apple. Ok. Mais vous savez quoi ? Vivons tous en paix parce que nous sommes sur Internet. Que tout le monde soit ami et camarade et gentil. Bon, elle est pas... Ma transition n'est pas aussi belle que les tiennes.
Non, moi je la trouve très très bien.
D'accord. Internet va-t-il recevoir le prix Nobel de la paix ? Oui, vous avez bien entendu. Internet est dans la course pour le prix Nobel de la paix cette année. Alors, restons mesurés. C'est une info qu'on a eue qui n'a pas été confirmée, selon laquelle Internet, comme organisation, comme invention, ferait partie des 237 individus et organisations nominés potentiellement pour le prix Nobel de la paix. Je ne sais pas si c'est confirmé. Je suis peut-être en train de dire une bêtise en disant que c'est pas confirmé. Mais en tout cas, l'info a été diffusée par la BBC et reprise par tout le net, évidemment. Et ça peut faire rire un petit peu quand on se dit Internet recevrait le prix Nobel de la paix. Finalement, enfin...
C'est vraiment bizarre, quoi. T'imagines, on dit ah oui, la plage, prix Nobel d'Internet, quoi, parce que tout le monde est content à la plage et ça permet de décompresser les gens. Quoi. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. C'est comme tu le disais au début, c'est ni une personne ni une organisation. Internet, c'est, je sais pas, c'est. Je trouve un peu.
C'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile de dire exactement. Par exemple, quand le prix Nobel de la paix a été, comment il s'appelle l'inventeur de la dynamite? Bref, ils n'ont pas décerné le prix Nobel de la paix à la dynamite, ils l'ont décerné à l'inventeur. Internet a changé la manière dont les gens interagissent, la manière dont les gens peuvent exprimer leurs opinions, comme le disait au début de l'émission, la manière dont les gens peuvent recevoir de l'information. L'avènement d'Internet a énormément... oui, on me dit dans la chatroom que c'est Nobel. D'accord,
Nobel,
merci, effectivement.
L'inventeur de la dynamite.
C'est le genre de truc où tu te dis, là, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, j'ai l'air d'un imbécile. Donc, effectivement,
non,
merci la chatroom.
C'est qu'on t'aime, c'est pas
ça. Effectivement. Donc, Nobel a reçu son prix pour la dynamite. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que Internet a... effectivement changer la manière, ça a été une influence majeure. Alors, et il n'y a pas véritablement un inventeur d'Internet. Donc, est-ce
que... Comment il va venir chercher son prix, alors ?
En fait, ils vont donner le prix...
sur
ils
un
vont
routeur
Ils le posent sur un routeur, ouais. Non, ils vont le donner à une organisation à but non lucratif si Internet gagne. Mais comment reconnaître au niveau sociétal l'influence d'Internet, parce que l'organisation Nobel a quand même une fonction de reconnaissance et de mise dans les grandes lignes de l'histoire, si tu veux, comment le faire sans dire Internet reçoit le prix Nobel de la paix. D'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, on a souvent tendance à associer Internet à des sites de chats qui rigolent et des vidéos de chiens qui font du skateboard. Mais ça a aussi
ça
une...
Aussi,
ah, décidément,
aussi,
il y a la...
aussi,
Internet n'est pas content en ce moment. Donc, il y a aussi une fonction importante, que ce soit en Iran, en Chine, dans énormément de pays. Et ne serait-ce que pour le rapprochement entre les peuples et entre les ethnies, les pays, etc., ça a considérablement facilité les communications. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est pas, à mon sens, c'est pas si ridicule que ça, non ? Je vous ai convaincu. Mmh.
C'est pas ridicule. Excuse-moi, Yann. C'est pas ridicule. Hein, je teste le son. Est-ce que ça va mieux ?
Ouais.
Là, oui. Ok. En fait, c'était le micro-ondes. C'est bien.
Incroyable.
Donc, je pense que si on avait effectivement 3 ou 4 inventeurs d'Internet dans un espèce de groupe qui incluait Sir Tim Berners-Lee, certains des mecs comment s'appelait le laboratoire de l'armée américaine qui a lancé en fait le réseau
DARPA,
sous-jacent à Internet,
DARPANET,
voilà.
Oui.
DARPANET, oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, ça ce serait plus personnifié et ça pourrait avoir un sens. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, Internet a été le facteur de communication, le facteur de liberté, d'expression de liberté, etc. Et donc, à ce titre, je vois pourquoi ce serait effectivement légitimement le récipiendaire d'un prix comme ça. Mais le fait de le dire, on l'envoie sur un routeur, ça fait un peu bizarre.
Ouais, effectivement. Bon, écoute, en tout cas, moi, écoutez, ok, j'ai une solution. On va pas chipoter pendant 2 heures. Vous pouvez me l'envoyer, le prix, et comme ça, voilà.
Exactement, Patrick.
Allez, rendez-vous tech pour prix Nobel.
moi je pense que c'est une bonne idée. Ok, bah écoutez, c'est tout pour nos sujets principaux. Effectivement, on a réussi à aller relativement vite, mais maintenant on a quand même une petite série de...
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Bon, ça a pris un tout petit peu de temps, mais ça a marché quand même. Il y a eu un petit silence mal à l'aise, tu sais. Le awkward silence.
Allez,
mais ça a fonctionné.
On va couper au montage.
Je suis plus à ça. Hein. Alors, première info, un petit peu rapide. Victoire ! La démocratie fonctionne. Enfin, plus ou moins. On vous parlait il n'y a pas 15 jours de l'ACTA et des dangers de l'ACTA. Eh bien, figurez-vous que l'Union européenne a tapé du poing sur la table et a exigé que les négociations de l'ACTA, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, revenez à l'épisode juste avant celui-ci, les négociations de l'ACTA soient rendues publiques. Et alors, on ne sait pas comment ça va se terminer, parce qu'on ne sait pas exactement quel pouvoir a l'Union européenne sur ces négociations, mais ils ont dit de manière très très forte et très violente, à 633 voix contre 13, qu'ils ont voté donc une résolution qui disait on ne peut pas continuer ces négociations dans le secret, il n'y a aucune raison qu'elles soient faites dans le secret et c'est un scandale et il faut absolument les rendre publiques le plus vite possible. Donc déjà c'est une première étape, je pense que c'est quelque chose d'important et c'est une preuve que, enfin, on critique souvent l'Union européenne, on en dit souvent assez peu de bien et on dit qu'elle fait pas grand chose, mais ces derniers mois et ces dernières années, on a eu la preuve à plusieurs reprises que il y a très très peu de gens, enfin d'organismes politiques importants qui défendent les intérêts des consommateurs, et l'Union européenne à plusieurs reprises a prouvé que c'est ce qu'il faisait, et moi je trouve ça important et de le signaler important tout court.
Non, c'est vrai, c'est une excellente nouvelle. Et puis, je dois t'avouer que maintenant que je suis au Canada, elle me manque un petit peu, quoi, l'Union européenne, quand je vois que je paye $150 mon abonnement Internet.
C'est ça... vrai.
Ouais, ouais.
$150 ton abonnement Internet, tu rigoles.
Bah écoute, si tu veux avoir du 50
ouais,
mégabits
enfin...
et être capé à 50 gigas par mois, bah tu payes 150 $ quoi.
Oui, mais enfin, c'est des dollars canadiens, ça fait 14 €, non?
Ça fait 15 €. Non, c'est un petit peu plus cher que ça, quoi. Donc t'en auras quand même pour
ouais, enfin,
110.
Objectivement, Yann, regarde-moi dans les yeux, au travers du câble, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu as besoin de 50 mégabits. Dis-moi pourquoi. Tu as besoin de regarder des choses
pour
sur
jouer
Internet.
À OnLive. Il attend OnLive.
Donc pourquoi? Parce qu'objectivement, même si ça fait pays sous-développé, 3,
oh, je te permets 6, pas.
6, 9, pour la plupart des utilisations, c'est quand même pas mal.
C'est vrai que moi, j'ai 30 mégabits en théorie sur Free. Je crois que je suis en pratique à 20, 21. Même, je me sers de 8 ou 9 généralement, quoi. Mais bon.
Ouais.
Non, mais bon, je comprends, je comprends. Moi, je serai dans la même situation et je paierai mes 50 mégabits, je pense. Autre information, le MS Courrier sortira bien. Cette merveille que. Alors, j'ai tweeté, vous savez, le MS Courrier, c'est cette sorte d'assistant personnel de tablette internet dont on a vu les vidéos concept il y a quelques mois. C'est une tablette avec deux écrans et on pouvait passer des éléments d'un écran à l'autre, etc., etc. C'était très bien fait. Et j'avais l'impression que Yann, tu avais craqué pour le MS Courrier. Et quand j'ai envoyé cette information sur Twitter, tu as répondu en disant que en fait, le MS Courrier n'était pas vraiment vraiment ton truc. Donc,
Ben, le truc, c'est que depuis la première annonce du Courrier, il y a eu l'iPad et Apple a montré ce qui pourrait être bien finalement dans un périphérique de ce type. Et donc ça a généré chez moi de nouveaux besoins que j'avais pas la première fois où j'ai vu le courrier. Et donc du coup, avec le recul, quand je vois le courrier comme ça, ça m'a l'air d'être un périphérique qui est vraiment quand même très très focalisé sur une certaine utilisation et pas très polyvalent en fait. D'après les vidéos qu'on a pu voir du courrier, j'ai pas l'impression que c'est un truc où je peux regarder mes DivX ou sur lequel je peux même je sais pas moi avoir accès ou installer un jeu ou un truc comme ça. On a l'impression que c'est vraiment un agenda électronique très avancé qui peut surfer sur le net, mais voilà, ça vraiment, on a l'impression qu'on est beaucoup plus limité, quoi. Donc comparé à l'iPad qui en plus ne me satisfait pas encore, je trouve que le courrier est encore plus en retrait.
D'accord. Bon, ben bah, en tout cas, on pourra juger par nous-mêmes d'ici quelques mois parce qu'il sort normalement fin 2010, donc encore un petit peu en retard par rapport à l'iPad. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque où l'iPhone était sorti, Microsoft avait présenté la Surface, donc la fameuse table multi-touch, quelques mois avant, et au final, ils n'en ont rien fait. Donc là, ils ont présenté le courrier quelques mois avant l'iPad. Est-ce qu'au final, ils n'en feront rien non plus? On verra.
On verra.
Si vous voulez lire les informations cruciales que vont vous donner les vidéos qui sont sur YouTube, Google a maintenant activé un sous-titrage automatique, ce qui est très intéressant en théorie, parce qu'il y a une reconnaissance vocale automatique qui va transcrire ça en texte. Donc, pour les malentendants ou pour les traductions, ça peut être intéressant en théorie. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous avez essayé, mais ça ne marche pas super bien encore. Donc, deux points pour l'effort, mais...
Ouais.
Effectivement, sur des systèmes multilocuteurs sans training, sans apprentissage. Merci Yann. Sans apprentissage, c'est compliqué de faire fonctionner un système comme ça, objectivement. Ouais. Donc, le fait que ça fonctionne à peu près, en fait, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Google va mettre à disposition ses flux d'informations pour que d'autres boîtes puissent prendre ça et après améliorer la qualité. Donc je pense que, sans vouloir parler de choses que je ne devrais pas mentionner, on va avoir des services arriver qui te donneront un niveau de qualité sur l'information qui est fournie, affichée, sous-titrée, qui est bien plus importante.
Bah, en plus, bah, déjà, merci pour l'info, c'est intéressant, mais effectivement, ça veut dire que au-delà du fait que techniquement ça fonctionne ou pas, ce qui est pas encore le cas aujourd'hui, mais qui risque de s'améliorer assez vite, en plus de ça, il y a quand même le fait que ça permet de faire une recherche texte sur les vidéos de YouTube, ce qui est là aussi une sorte de saint graal de la recherche, parce que comme vous le savez évidemment, Google fait tout son beurre sur la recherche, et s'ils peuvent réussir à mieux indexer les vidéos en recherchant dans le texte qui est dit dans ces vidéos, ça peut leur permettre encore de monétiser ce genre de choses de différentes manières et de vous proposer des services plus adaptés si vous faites, si vous recherchez quelque chose. Donc, il y a des implications qui sont un petit peu cachées là-dessous et qui sont très intéressantes. Et en tout cas, ça peut amener à des résultats inattendus à l'avenir aussi, et c'est à surveiller.
Bah, c'est pas vraiment inattendu, c'est qu'en fait Google voit ça comme une énorme opportunité de te sortir de la pub qui va être complètement adaptée aux recherches que tu vas faire. Si tu vas jouer un bout d'une vidéo, ça va te mettre directement sur la phrase que la vidéo est en train de jouer, et juste avant ils vont pouvoir te mettre un interstitiel de 5 secondes qui va être complètement targeté. Donc c'est pas uniquement je dirais un essai de mettre à disposition de la connaissance du monde, c'est juste de faire plus d'argent sur la vidéo, quoi.
Bien sûr. Non, mais je pensais à des choses comme, par exemple, s'ils réussissent à transcrire correctement en texte ce genre de choses et que leur moteur de traduction peuvent là aussi s'améliorer, ça veut dire qu'il n'est pas impossible qu'on voit des vidéos avec une traduction en texte instantanée en sous-titres, voire même parler le jour où la synthèse vocale sera plus efficace. Donc, en ce sens-là, je veux dire, ça permet la manipulation de ces informations, donc le texte qui est dit dans les vidéos, qui peut fournir des services auxquels on ne pense pas immédiatement quand on voit que Google propose le sous-titrage automatique, quoi.
Alors, il y a un service aujourd'hui qui est surtout utilisé dans les pays d'Asie du Sud-Est qui s'appelle Viki. Alors, je ne sais plus si c'est V-I-I-K-I-I ou quelque chose comme ça, qui te permet en fait d'offrir un sous-titrage pour les vidéos que tu vas mettre à disposition. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut définir le sous-titrage d'une vidéo et soumettre ça sur le service. Et donc imagine qu'il y a une vidéo que tu aimes beaucoup, Patrick, tu peux la sous-titrer en français, la soumettre au service, et après dans le player tu peux dire bah voilà, je veux la vidéo en français, tu vois le sous-titrage qui apparaît. Et donc c'est disponible depuis près de 2 ans aujourd'hui.
Effectivement, c'est V-I-I-K-I-I. D'accord. Bon, bah écoute. Dernière information sur ces rumeurs et ces news rapides. La Tribune risque de quitter les kiosques. Comme vous le savez, la Tribune est un quotidien assez important dans le pays. Et le problème, c'est qu'ils vendent tellement peu en kiosque et ça leur coûte tellement cher pour l'impression et la distribution qu'ils risquent de quitter totalement les kiosques bientôt. Et d'autant plus que leurs visites ont augmenté de 34% en janvier 2010 par rapport à janvier 2009. Donc il y a une vraie progression sur le net. Et il y a une vente en kiosque qui est complètement ridicule, parce que les chiffres qu'ils ont donnés sont, tenez-vous bien, à votre avis, la Tribune, ça vend combien en kiosque? Vous avez vu l'article ou pas, tous les deux?
Je dois t'avouer que je n'ai pas eu le temps.
D'accord. Alors, tiens, non, mais c'est très bien, c'est parfait. À votre avis, ils vendent combien d'exemplaires en kiosque, la Tribune?
Je dirais 2 millions.
Non, mais par jour.
Ah, par jour. J'en ai aucune idée.
En centaines de milliers, à peine.
Bah écoute, pour un éditeur, le plus important est de connaître ses clients. Ce qui est possible avec ses abonnés, au papier ou au numérique. Nos ventes en kiosque représentent environ 4000 exemplaires.
Quoi ?
4000. Vous vous rendez compte ? C'est invraisemblable. Donc, moi, j'étais totalement... Oui, non, mais c'est...
Il faut virer l'éditeur.
Alors... Ce qui est surprenant, c'est qu'ils disent en 2010, le journal a enregistré une diffusion France payée de 70 000 exemplaires, soit 6% de plus, blablabla, etc. Donc ils doivent avoir d'autres moyens de diffusion. Et ça ne veut pas dire que la Tribune en papier n'existerait plus. Mais c'est uniquement les ventes en kiosque elles-mêmes qui ne sont plus intéressantes. Donc... voilà. Bon, c'est quand même un quotidien économique, la Tribune, donc c'est un truc particulier. Il est possible que l'essentiel de leur diffusion se fasse directement aux entreprises ou par abonnement, etc., etc. Mais enfin, malgré tout ça, se dire que la tribune, qui est, ouais, la tribune qui est un quotidien extrêmement connu, qui ne vend que 4000 exemplaires en kiosque. Donc voilà. Voilà pour l'information surprenante de la journée. Et ça conclut nos informations de cet épisode. Et on passe maintenant à notre excellente statosphère de Guillaume, qui nous a envoyé encore des chiffres sur Google. Et c'est le 11e épisode que je vous passe tout de suite.
Bonjour à tous. Je vais vous reparler des statistiques du moteur de recherche de Google, dont les chiffres sont fournis par Pingdom.com et le Google Blog. Dans le monde, la firme de Mountain View détient 86% du marché de la recherche Internet. Elle enregistre jusqu'à 3 milliards de recherches par jour, réalisées par 620 millions de visiteurs et parmi 1 trillion, c'est-à-dire 1000 milliards de pages indexées. Alors bien sûr, le défi de Google réside en grande partie dans le stockage et le tri de toutes ces données. Chaque jour, Google traite au total 20 pétabits, soit environ 20 millions de gigaoctets. À titre de comparaison, cela représente 240 fois les archives web de la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Selon le blog de Google, 1 pétabit nécessite 48 000 disques durs contenus dans 4 000 ordinateurs. Le processus de tri dure 6 heures et engendre systématiquement la mort d'au moins un disque dur. C'est pourquoi, par précaution, le système de gestion de fichiers de Google est configuré de manière à stocker chaque fichier sur 3 disques durs bien distincts. Enfin, selon la rumeur, Google posséderait 500 000 ordinateurs répartis dans 60 data centers et situés essentiellement en Amérique du Nord et en Europe. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
Merci à Guillaume pour ces statistiques. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes ces, tous ces chiffres et d'autres encore sur statosphere.fr, son site. Vous savez quoi ? Ce genre de chiffres à propos de Google me font beaucoup plus peur que les histoires de vie privée et de, d'informations qu'ils ont sur nous. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée qu'ils aient 500 000 ordinateurs et qu'ils aient que 1 pétabit, qui représente rien de leur trafic, soit stocké sur 48 000 ordinateurs, etc., etc. Je sais pas pourquoi ça me donne une impression ça m'écrase en fait. C'est tellement imposant, ça me fait beaucoup plus, ça m'impressionne beaucoup plus que tout le reste.
Alors Patrick, je suis désolé, mais en fait le nombre c'est bien plus proche de 1 million de serveurs.
Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas me faire faire des cauchemars.
J'ai rien dit. Et en fait, ils utilisent effectivement un système qui s'appelle Bigfile, qui où il n'y a pas de backup. En fait, la notion de backup chez Google n'existe pas, puisque l'information est tellement énorme. Et donc, ils ont toute information.
C'est redondant, en fait.
Redondante, voilà. Et donc, ils ont mis en place un système d'exploitation spécial, basé sur Unix, qui leur permet d'avoir une redondance des différents fichiers, des différents disques, où en gros, tu peux prendre une machine, tu peux l'arracher du cluster quand tu veux, tu peux arracher un disque, et tout, en fait, se reconfigure de façon dynamique.
Oula. Ton son est encore un petit peu altéré.
Éteins ta four à micro-ondes, là.
Au micro-ondes, il est là.
Tu te fais une pizza au micro-ondes encore?
Non, mais en fait, je suis pas à Palo Alto, je suis à la montagne, donc c'est la première fois que je fais ça ici, donc j'essaie de trouver l'endroit où je peux me mettre, désolé.
pas de souci, on comprend.
Patrick, tu n'as pas parlé de Google Kansas?
Non, c'est vrai, j'ai sauté l'info parce que c'est pour toi, hein, c'est pour le temps en fait. Mais si tu veux nous en parler, n'hésite pas.
Bon, en fait, c'est juste une petite... Donc Google a lancé un programme récemment où ils vont équiper des villes avec de la fibre optique, donc de manière à délivrer du haut débit. Et donc il y a une ville au Kansas qui a proposé de changer de nom pour devenir Google, de manière à être un des récepteurs de cette connexion au débit. Et en fait, je voulais juste te dire que Google n'a fait que copier mon copain Josh Koppelman, qui en 1999 avait renommé une ville en Oregon Half.com, qui était le nom de son service.
Comment il l'avait renommé?
Half.com.
Half, d'accord. Ouais, effectivement, c'est une histoire marrante. En fait, le maire avait proposé de renommer Google, de renommer Topeka. Pendant une journée, de le renommer Google, c'était un truc honorifique presque, et ça a fait tellement de bruit qu'ils ont décidé d'étendre le truc pendant un mois. Alors attention, pour information, c'est pas non plus fait officiellement sur la documentation administrative, etc. C'est pas fait pour durer. C'est simplement, ils disent, appelons maintenant entre nous notre ville Google. Ça, ils ont fait une cérémonie, un machin. Mais sur le papier, la ville s'appelle toujours Topeka. Hein. C'est pas, ils ont pas complètement renommé leur ville Google. Donc,
alors que dans le cas de Hap.com, ils avaient effectivement renommé la ville, je ne sais plus si c'était pendant un mois ou pendant un an, et tu es allé, bienvenue à Hap.com. Et donc, c'est mon copain Josh qui avait eu l'idée, c'est un génie du marketing, et il a vendu son service. Il a vendu son service pour près de 400 millions de dollars à eBay aussi, en passant. Yeah. Et en fait, son autre idée de génie marketing, c'était de mettre en place un filtre dans les urinoirs des aéroports américains. Oula. Qui était avec un branding Hap.com. Et donc il avait fait ça dans tous les aéroports américains, et ça avait fait parler du service de façon absolument monstrueuse, et donc ça lui avait donné une couverture médiatique qui était mais gigantesque.
Marrant. Et vous savez quoi, je crois que je vais peut-être le jour où j'aurai des enfants, je vais les appeler French Spin et No Watch. Comme ça,
ça... Oh mon Dieu.
Écoute, ça, au moins comme ça leur éducation, si ça me fait de la pub et que je vends mes services pour 60 millions de dollars à Google, ça assurera leur éducation et leur fonds de pension même. Ils vont pas se plaindre non plus. Bon,
on verra.
Bon, vous savez quoi, je crois qu'on va sauter le combat. Voilà, on va attendre que l'écho de la mort s'arrête. On va sauter le conseil logiciel et on va directement refermer l'émission parce qu'on arrive à la fin de l'heure qui nous était allouée par Jeff. Donc en plus, comme ça fait une émission qui rentre dans les temps pour une fois de notre vie dans l'heure qu'on s'est allouée.
Pour la première fois, pour le 30e épisode.
Magnifique. Donc écoutez, je vous propose de nous dire où on peut vous retrouver sur internet, puisque l'émission est un peu courte. Si les gens en veulent plus, Jeff, où est-ce qu'ils doivent aller pour te suivre?
Le plus simple, c'est twitter.com/Jeff, J-E-F-F, ou autrement softtechvc.com, softtechvc.com.
Merci Jeff. Et Yann, qu'en est-il pour toi?
Eh bien, écoute, c'est pareil, twitter.com/YannAllet, et YANALET, et puis mon site web, YannAllet.com, voilà.
Eh bien, moi, c'est comme toujours NotePatrick sur Twitter, et je profite de ce 30e épisode, qui est un petit peu émouvant, pour vous rappeler, je pense que dans les tout premiers épisodes, et sans doute même dans le premier, on vous avait parlé de Twitter, et juste comme ça, pour le plaisir l'exercice intellectuel, souvenez-vous parmi vous combien se connaissait Twitter à l'époque, et aujourd'hui, combien connaissent Twitter? Ça vous donnera un petit peu une idée, d'une part, de l'avant-gardisme du rendez-vous tech, ce qui est non négligeable, mais aussi de la manière dont les choses ont évolué pour Twitter de manière totalement invraisemblable. Donc voilà, c'est une petite réflexion comme ça qui est amusante pour le 30e épisode. on va y aller parce que l'écho devient insupportable. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver tous les 15 jours, et vous avez plus d'informations sur le site frenchspin.com ou lrdv.fr. Et les choses sont en train de bouger, hein, je vous assure, sur nowatch.fm et nowatch.tv. Donc les choses arrivent, c'est un petit peu plus long que prévu, mais ça sera encore meilleur que prévu. Donc également sur nowatch.fm avec TechnoIT qui nous a rejoint sur nowatch.fm, donc le podcast de Lionel qui est orienté vers les spécialistes de l'informatique, les administrateurs système et tous ces gens-là. Donc si vous faites partie de cette catégorie, n'hésite pas à aller sur nowatch.fm pour découvrir TechnoIT, le podcast qui vient de nous rejoindre. Merci à tous, et on vous donne rendez-vous le 29 mars, ça sera l'épisode 31. À bientôt, ciao ciao.
Salut à tous et tout le monde.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.